La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots. Et voilà une phrase que j'aurais bien du mal à traduire dans d'autres langues parce que je ne suis pas si polyglotte que ça. En tout cas, je ne vous en donnerai pas le spectacle. Mais la traduction est un enjeu extrêmement important et les façons de traduire changent beaucoup en ce moment, surtout grâce à l'informatique. Alors, pendant très longtemps, on a utilisé des interprètes, c'est-à-dire des humains, ce qu'on appelait jadis des truchements. Aujourd'hui, de plus en plus, on recourt à des machines pour traduire des textes, pour traduire des discours, mais les machines ne concurrencent pas encore totalement les êtres humains. Est-ce que ça va changer? Vraisemblablement. Quand ça? Comment? Eh bien, on va peut-être le savoir un petit peu davantage grâce à François Yvon, qui est notre invité du jour.
Bonjour.
Bonjour François Yvon.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez à l'Université d'Orsay où vous dirigez un laboratoire, celui d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Et vous vous intéressez tout spécialement aux problèmes de traduction. Ces problèmes de traduction, ils changent assez vite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus recours aux ordinateurs si on veut traduire quelque chose, si on veut savoir le sens d'une phrase, d'un paragraphe, d'un article, on va utiliser un traducteur automatique. Mais on sait que ces traducteurs automatiques, ils sont pas encore totalement au point. En tout cas, pour l'utilisateur lambda que je peux être, moi je suis pas spécialiste, je me sers par exemple d'un moteur de recherche gratuit pour essayer d'avoir une traduction, de temps en temps, j'ai pas un résultat extrêmement convaincant. Est-ce que cette situation, vous avez l'impression que elle pourra changer rapidement, c'est-à-dire que tout un chacun, les gens qui sont pas spécialisés dans les problèmes de traduction, ils pourront de plus en plus utiliser des traducteurs informatiques pour peu d'argent ou même de façon totalement gratuite et de façon plus efficace qu'aujourd'hui. Comment vous voyez, disons, demain ou ce soir?
Alors, avant peut-être de commencer, je voudrais rappeler que la situation que vous décrivez n'est pas complètement nouvelle, puisque depuis en fait qu'Internet, disons, est mondialisé, les moteurs de recherche, donc c'est depuis les années 2000, en fait, ouvrent des services de traduction automatique qui n'ont fait que s'améliorer, disons, en surface depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et donc l'usage de ces traductions automatiques se répand, disons, dans le grand public. Et donc maintenant, je pense que chacun fait l'expérience plus ou moins heureuse d'utilisation d'un de ces systèmes. Alors la situation que l'informatique a rendue possible, c'est d'offrir à tout le monde la possibilité de traduire n'importe quoi pour des usages qui sont non spécifiés. Et ça, c'est une situation qui est tout à fait nouvelle par rapport à la situation antérieure où, disons, la traduction est essentiellement une affaire d'humain. Et donc, la traduction était commandée par quelqu'un. Et donc, on savait pour qui on traduisait. Et on savait aussi à quoi était destinée cette traduction. Elle pouvait être destinée à la publication. Elle pouvait être destinée à un usage militaire, par exemple, pour des analystes militaires. Elle pouvait être destinée à plein d'autres usages. Mais en tout cas, on savait pour quoi on traduisait. Une des particularités des moteurs de traduction qui sont sur Internet, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils traduisent. Ça, c'est une chose qu'il faut bien réaliser. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne savent pas non plus ce qu'ils vont traduire. Un traducteur humain, il se spécialise pour un tel ou tel type de texte. Il va se spécialiser dans le domaine des textes financiers. Il va se spécialiser dans le domaine de la médecine. Ou bien, il va se spécialiser dans la traduction d'humains en train de parler, donc dans des tâches d'interprétariat. Les traducteurs sur Internet traduisent n'importe quoi. Donc, ils traduisent des textes bien formés. Ils traduisent de la presse. Ils traduisent aussi des emails qui sont peut-être un peu moins bien formés. Et puis on leur fait traduire aussi des posts sur des forums, on leur fait traduire à peu près n'importe quoi. Des choses qu'un traducteur humain ne traduira jamais, ne saurait pas traduire, et même pour lequel on serait bien en peine de définir qu'est-ce que ça veut dire que traduire. Si je prends les SMS que je reçois parfois de mes enfants ou de mes neveux, j'ai moi-même du mal à les comprendre. Et donc je pense qu'un traducteur humain ne saurait pas comment les traduire, parce que la tâche de traduction d'un SMS n'existe pas en fait. Personne n'a jamais commandité à quelqu'un la traduction d'un SMS.
Alors, est-ce que vous avez l'impression justement que dans la façon dont on va formater ces traducteurs automatiques, on va prendre en compte ce fait-là ? Parce que le traducteur automatique, au départ, en effet, il est neutre, il ne sait pas qui s'adresse à lui, et il ne sait pas dans quel domaine on va lui demander de travailler. Comment justement on va prendre ça en compte ?
Alors, un des traits des derniers systèmes de traduction automatique, disons depuis les années, je dirais, 2000 à nouveau, c'est que c'est des systèmes qui sont basés sur les données. Et donc, en gros, les systèmes de traduction sont entraînés, à partir d'exemples de traduction, à reproduire le type de traduction qu'ils observent dans les données. Et donc, un présupposé important est l'existence de ces données. D'où viennent-elles ? Aujourd'hui, les grandes sources de données qui sont utilisées ou qui sont disponibles viennent des archives des parlements, du Parlement européen, du Parlement canadien, de l'ONU, et ça a été la première grande source de données. Donc, il ne faut pas être surpris que les systèmes de traduction statistique, disons, soient très forts pour traduire du jargon administratif de la communauté européenne et soient beaucoup moins à l'aise pour traduire des SMS, parce que d'un côté, ils ont des centaines de milliers de textes à leur disposition qui ont été très bien traduits par des traducteurs humains, donc ce sont des traductions très conformes et très fidèles, alors que dans le domaine de la traduction de SMS, ils ont très peu de choses, je dirais, à se mettre sous la dent.
Ce qui veut dire donc que la traduction mécanique se spécialise aussi.
Elle se spécialise parce que
du fait qu'on lui demande plus de travailler dans tel ou tel domaine, donc qu'elle aura plus, disons, d'expérience, entre guillemets, en tout cas, de données déjà traduites.
En fait, sa spécialisation, elle provient uniquement des données qu'on lui a fournies. Donc, elle est spécialisée dans les domaines sur lesquels elle a vu des données.
Et donc plus elle travaille, plus elle sait travailler, cette intelligence artificielle.
Elle s'entretient pas forcément de ses propres productions, mais par contre, elle, plus on pourra lui fournir des données en abondance et des données de qualité, et meilleure elle sera. Et donc, pour les domaines, ou pour les langues, ou pour les registres, ou pour les styles pour lesquels on dispose de beaucoup de traductions, on peut arriver à des résultats qui sont satisfaisants. Lorsque ces conditions sont pas réunies, lorsqu'on n'a pas assez de données, alors à ce moment-là, tout est possible. On peut avoir des traductions de bonne qualité, mais aussi de très médiocres.
Alors, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un utilisateur ordinaire qui veut traduire, je ne sais pas, ce qu'il y a sur une fiche de médicaments et qu'il ne comprend pas, traduire une lettre d'un ami, traduire quelque chose qu'il a... un titre de la presse, et qui, lui, ne possède aucune expérience dans ce domaine. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire pour avoir le meilleur service possible, disons ?
C'est une question qui est pas forcément aisée. Peut-être il faudrait déjà commencer par essayer plusieurs moteurs de traduction, parce que on peut en avoir de différentes qualités. Et donc peut-être en comparant les résultats qu'ils donnent, on aura une espèce de renforcement des zones qui sont sûres et puis des zones qui sont incertaines et pour lesquelles il faudrait une expertise supplémentaire. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres sources à consulter. Peut-être chercher sur Internet les mots qui paraissent difficiles ou les mots techniques, etc. Donc tout le travail que fait finalement un traducteur humain lorsqu'il est confronté à des textes dont il ne comprend pas forcément le vocabulaire, il va aller se renseigner, il va mener une recherche lexicographique pour essayer de voir les termes du domaine, bien comprendre comment ils se traduisent.
Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle, ou en tout cas le moteur informatique, de temps en temps ne va pas faire le travail à la place du traducteur, mais va l'aider.
C'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui les outils qu'on a sont autant des outils, disons, qui font des traductions en boîte noire. On leur donne une entrée, ils produisent.
Qu'est-ce que vous appelez traduction en boîte noire ?
Traduction en boîte noire, c'est-à-dire que le système fonctionne sans qu'on comprenne comment il fonctionne. On lui donne une entrée et il produit un résultat, et on a l'humain qui exploite ce système n'a aucun moyen de savoir comment le système a réalisé le cheminement de l'entrée vers la sortie.
Voilà, ouais, l'utilisateur n'est pas du tout associé au processus. Voilà. Il commande quelque chose et on lui donne son sandwich tout prêt, quoi.
Et bien souvent, c'est la seule possibilité qu'on a. Quand on traduit depuis une langue dont on ne sait même pas lire, pour mon cas depuis le chinois par exemple, je ne peux pas lire le chinois, donc je suis obligé de me fier exactement à ce comportement en boîte noire. Après, les mêmes systèmes peuvent aussi servir à des gens qui ont une exposition ou une connaissance des deux langues, de la langue source et de la langue cible, et à ce moment-là, le système va les aider peut-être à traduire des zones pour lesquelles ils ont des difficultés, ou bien à préparer une traduction qu'ils vont ensuite améliorer. Et donc, toute une gamme d'usages, en fait, est envisageable selon la connaissance qu'on peut avoir des langues sources et cibles.
Et alors, je reviens à la première question, évidemment, qui est la question la plus spontanée et peut-être la plus naïve qu'on puisse se poser, est-ce que vous avez l'impression que dans les années qui viennent, ça va beaucoup changer ? Là encore, non pas pour des gens qui sont des professionnels, qui sont des traducteurs, qui seront aidés de mieux en mieux par la machine, etc., mais pour des gens qui ne sont pas du tout des traducteurs et qui justement peuvent demander à la machine quelque chose dont ils n'ont aucune idée, c'est-à-dire que veut dire cette phrase dans cette langue dont je ne connais pas un mot.
Moi, je pense que ce qui est évident, c'est qu'on peut se faire aider de plus en plus par la machine dans des conditions où on était autrefois complètement démuni face à une incompréhension ou une méconnaissance. Et donc, on a cette situation quand on essaye de lire des documents dans une langue qu'on ne connaît pas sur Internet, mais on a aussi cette situation-là lorsqu'on voyage à l'étranger et qu'on est mis au contact avec la population locale dans des situations de banales de la vie quotidienne, de devoir se déplacer dans une ville, devoir se renseigner, etc. Et les systèmes de traduction qui commencent à être disons, opérationnels, disponibles non seulement sur Internet, mais aussi sur des mobiles, là change la vie des gens, littéralement, parce que d'un seul coup, on n'est plus démuni quand on est au Japon. Même si on ne peut pas lire l'écriture japonaise, on peut malgré tout interagir avec un traducteur. Et ces traducteurs, ils sont relativement bons et fiables quand il s'agit simplement de dire où est l'hôtel, ou bien où est la rue, ou bien où est
le... C'est-à-dire qu'avec un téléphone, vous pensez qu'on peut ou qu'on pourra très prochainement, par exemple, photographier un texte, photographier une enseigne et demander à son téléphone qu'est-ce que ça veut dire ça.
Cette fonctionnalité est déjà offerte sur les téléphones par plusieurs applications qu'on peut télécharger gratuitement et je dirais que demain ça sera des écouteurs qu'on aura dans ses oreilles et on pourra parler dans une langue et entendre l'autre langue. Les premiers prototypes commencent à être diffusés. Google a sorti un produit cette année et je pense que cet usage-là va se développer et ça va changer littéralement une manière de voyager. On va être beaucoup plus facilement en contact avec les populations.
General Electrics, un groupe de musiciens français qui chante en anglais et qui d'ailleurs dit « Ne me laisse pas dormir » dans la danse des mots. François Yvon, donc je reviens à notre problème donc de traduction. On voit que beaucoup de progrès tout à fait étonnants ont été faits récemment. Est-ce que vous pourriez nous retracer, mais à grands traits, l'évolution justement de ces technologies ? De quoi on est parti, à quoi on arrive aujourd'hui et comment justement un certain nombre de logiques assez différentes ont pu se succéder dans la façon de considérer une langue étrangère et de la traduire dans une autre langue ?
Alors, je dirais que la traduction automatique, en fait, est un vieux problème pour les informaticiens, puisque dès qu'on invente l'ordinateur, en fait, pratiquement à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on va commencer à développer des ordinateurs qui traduisent pour décoder.
Ça a été l'une des premières applications et l'un des premiers rêves des ingénieurs informaticiens de pouvoir justement traduire.
Très tôt, très tôt. On avait, pendant la guerre, réussi à décoder des codes secrets. On s'est dit, finalement, décoder notre langue, ça ne doit pas être beaucoup plus difficile que décoder des codes secrets.
Et c'est vrai que cette histoire, justement, de décodage des codes, ça a été à l'origine même de l'informatique.
Absolument, c'est les mêmes personnes qui sont impliquées dans ces projets et je dirais qu'il y a presque une continuité entre la démarche de décoder et la démarche du traducteur et cette analogie elle est présente dans les premiers papiers sur la traduction automatique de Warren Weaver dans les années 50. Alors, à cette époque-là, en fait, on pense que le problème n'est pas si difficile et on commence à essayer de voir comment on peut le traiter et on le traite de manière très analytique. Donc, on essaye de voir quel problème un traducteur humain doit résoudre quand il traduit et puis on essaye de voir comment une machine pourrait faire cette même tâche. Alors, par exemple, quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'un traducteur humain, quand il traduit, il doit trouver le bon sens pour les mots dans la langue source. Hein, si, par exemple, il doit traduire le mot « coach » depuis l'anglais vers le français, eh bien, il faut qu'on sache si c'est le sens entraîneur sportif qui doit être choisi, ou bien si c'est le sens autocar, parce que on n'aura pas la même traduction. Et donc, on découpe un peu les tâches de la traduction automatique en petites sous-tâches, et puis on essaye de voir pour chacune des sous-tâches si la machine pourrait les résoudre. Et la manière dont on envisage de les résoudre, c'est d'écrire des règles.
On essaye, en fait, d'imiter le traducteur humain. On se dit, on va mettre la machine dans la même situation que l'humain qui traduit.
On essaye de l'imiter, ou plutôt, on essaye de décomposer son activité en une myriade de petites décisions qu'il doit prendre. Chaque décision, ensuite, on va essayer de voir comment la machine peut la faire à la place du traducteur humain. C'est ça la grande logique. Et puis, une fois qu'on a identifié ces décisions, on essaye de voir quels sont les indices qui nous permettent de faire cette décision de manière efficace. Par exemple, si au voisinage, dans une phrase qui contiendrait le mot coach, pour continuer, on trouve des mots qui sont relatifs à l'activité de voyage, on va traduire plutôt par autocar. Et si dans son voisinage, on trouve des mots qui sont relatifs à l'activité sportive, on va traduire par entraîneur. Et donc, ces décisions, une fois qu'on les a bien identifiées et qu'on a compris comment on pouvait les faire, eh bien, on va les modéliser sous la forme de règles. Et donc, il y a tout un travail dans les années, depuis la fin des années 50 jusqu'aux années 80-90, hein, je dirais, avec des hauts et des bas d'activité, dans lesquels on va se focaliser sur ces décompositions en sous-tâches, à la fois pour ce qui est de l'analyse de la langue de départ, pour essayer d'aller de plus en plus loin dans l'analyse, pour trouver le sens des mots et pour trouver la dénotation des mots dans leur contexte, et puis voir après comment, une fois qu'on a bien compris la phrase source, comment on va rendre le sens dans la phrase cible.
Si je comprends bien, on met l'accent d'abord sur le lexique, sur le vocabulaire, sur le sens des mots, plus que sur l'organisation, c'est-à-dire sur la syntaxe et sur la grammaire.
Eh bien, parfois, il faut comprendre la syntaxe de la phrase pour pouvoir trouver le bon sens des mots. Donc, il y a les deux sont étroitement liés. Et ça a été une des réalisations un peu douloureuses de se rendre compte qu'on pouvait pas simplement se lier à une approche très surface en traitant les mots un par un, mais qu'il fallait prendre la phrase dans sa globalité, dans sa structure, pour pouvoir résoudre tous ces problèmes d'analyse de la langue source.
Oui, un traducteur n'est pas un dictionnaire.
Un traducteur n'est pas juste un dictionnaire, mais il doit aussi, disons, être capable de saisir la subtilité ou la nuance des sens du mot dans son contexte, qui est même parfois au-delà de la phrase, qui peut être dans le contexte du texte tout entier.
Et puis, il y a eu un certain nombre d'évolutions et on est revenu sur ces façons de faire, ou en tout cas, on les a compliquées, on les a rectifiées.
Alors, c'est des manières de faire qui ont été très, qui ont conduit à des très belles réussites, malheureusement, dans des domaines très limités. Parce que plus on écrit des règles pour désambiguiser, pour trouver le bon sens des mots et pour trouver les bons équivalents de traduction, plus on est amené à complexifier, disons, le système de traduction, parce que il y a des exceptions et puis il y a des exceptions aux exceptions. C'est bien que les langues sont riche en exceptions. Et du coup, le travail de développement de ces règles devient très très fastidieux. Il faut les maintenir. Et puis, on s'est aussi rendu compte que les règles qui s'appliquaient pour traduire un texte, disons, financier, par exemple, sont pas les mêmes règles, exactement, tout à fait, qu'on utilise pour traduire un texte dans le domaine de la médecine, parce qu'il y a des mots qui ont un sens particulier dans le domaine de la santé, qui ont un autre mot dans le domaine des finances, etc. Et donc, on s'est rendu compte que cet effort de multiplication de systèmes de règles était pas tenable à long terme, et il a fallu se pencher sur d'autres types de techniques. Et, dans les années 90, en fait, il y a eu une percée importante dans le domaine de la reconnaissance vocale, qui a conduit au développement de nouveaux outils d'analyse statistique des textes. Et très tôt, des chercheurs d'IBM à New York se sont dit, mais ces mêmes techniques qu'on utilise pour la reconnaissance vocale, on devrait pouvoir les utiliser pour la traduction automatique. Et donc, ça a donné lieu à un programme de recherche qui s'est étendu, je dirais, à peu près sur une vingtaine d'années, depuis 90 jusqu'aux années 2005-2010, dans lesquels on a construit des modèles qui étaient des modèles statistiques, dans lesquels on prenait des grands textes traduits, et puis on essayait d'extraire de ces mises en correspondance de grands textes traduits les régularités, les règles qu'on apprenait de manière automatique pour réaliser ce qu'avant on faisait, disons, à la main.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit,
c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent, au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars. Avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court.
Pauline Croze avec Les Eaux de Mars en français, l'une des plus belles bossa nova qui témoigne justement qu'on peut passer du portugais du Brésil au français avec un certain nombre de modifications, bien sûr. Alors, François-Yvon, nous parlons dans la danse des mots des problèmes de traduction. Ces problèmes ne sont pas inséparables de problèmes politiques. Il est évident que ceux qui ont le plus de puissance, ceux qui ont le plus d'argent vont peut-être favoriser leur langue, la langue dans laquelle ils travaillent. Alors, on sait bien que les gros moteurs de recherche sont en général d'origine anglo-américaine. Est-ce que la langue anglaise a une position très, disons, centralisatrice par rapport à ces politiques de traduction dans les machines qu'on essaye d'élaborer aujourd'hui?
Alors, c'est évident, comme je l'ai dit, que la traduction moderne, la traduction d'aujourd'hui, se nourrit de données. Et pour avoir des données, il faut investir dans la collection de données. Aujourd'hui, les sources de données, comme je l'ai dit, les plus facilement trouvables, c'est les données des grandes institutions internationales. Donc l'anglais est toujours une langue représentée dans ces institutions. Le français en est une autre, à l'ONU, à la Commission européenne ou bien au Canada. Et puis, l'autre grande source de données, c'est les données qu'on trouve sur le web, sur les sites marchands, dans lesquels les gens font des efforts pour traduire leur site dans plusieurs langues. Et à nouveau, la puissance économique du marché auquel ils s'adressent fait qu'on trouve plus de sites qui sont traduits en anglais que de sites qui sont traduits en français. Et ça a un impact parce que meilleures ou plus grandes seront les collections de données, meilleurs seront les systèmes de traduction statistique. Et donc il y a très tôt eu la réalisation qu'il fallait, pour qu'une langue s'outille, pour qu'une langue puisse avoir des systèmes de traduction vers cette langue, il faut des données, il faut collecter des données. Dans la mesure où on a beaucoup de corpus qui sont d'un côté une langue, quelconque, et de l'autre côté l'anglais, eh ben on a développé beaucoup de systèmes qui traduisent depuis et vers l'anglais. Sachant qu'en plus, l'anglais a des propriétés linguistiques qui sont telles que, en fait, il y a beaucoup des propriétés des systèmes de traduction eux-mêmes qui sont liés au fait qu'on traduit vers l'anglais, parce que l'anglais, d'une certaine manière, facilite un certain nombre incite un certain nombre de traitements.
Alors, est-ce que ça veut dire que la langue anglaise va devenir presque une gare centrale vers laquelle on va passer très fréquemment quand on traduit d'une langue à une autre? Par exemple, est-ce que si on traduit du bulgare vers le roumain, qui sont proches géographiquement et qui sont pas du tout des langues proches d'un point de vue linguistique, est-ce que on sera amené à passer par l'anglais, traduit du bulgare à l'anglais et de l'anglais au roumain, par exemple, hein?
Alors, dans les faits, faut garder en tête que l'anglais est déjà une gare de triage au moment où on produit ces données, puisque dans les grandes institutions internationales, il n'est pas forcément vrai qu'il y aura un traducteur humain qui traduira du bulgare au roumain. Mmh. Peut-être le texte en bulgare sera traduit d'abord en anglais, et puis de l'anglais vers le roumain. Ce qui fait que même si on a des données qui semblent parallèles, c'est-à-dire des corpus où on a à la fois le texte en roumain et le texte en bulgare, peut-être de manière sous-jacente, en fait, ces deux textes, ce sont deux traductions depuis l'anglais. Mmh. Et alors, après, au niveau automatique, la question se repose exactement de la même manière. Si on n'a pas assez de données pour faire un système entre deux langues, quelles qu'elles soient, eh bien, on peut avoir la tentation de traduire d'abord d'une langue vers l'anglais, puis de l'anglais vers l'autre langue, ce qui fait des traductions qui sont influencées, qui gardent toujours la trace, en fait, d'un anglais sous-jacent qui est là. Donc, c'est vrai qu'il y a l'anglais, de ce point de vue-là, joue un rôle central dans les dispositifs de traduction, surtout quand ils envisagent de traduire beaucoup de paires de langues.
Alors François-Yvon, une dernière question un petit peu différente de celle que je viens de vous poser. Comment on utilise justement ces progrès dans la traduction pour essayer de collecter des informations sur les langues, et notamment sur les langues menacées, ce qu'on appelle les petites langues. Petites non pas par rapport à leur valeur propre, intrinsèque, mais par rapport au nombre de locuteurs, hein, de gens qui les parlent. Ces langues dont on sait que dans 5, 10, 15 ans, elles vont mourir, elles ne seront plus parlées par personne. Est-ce que cette aide à la traduction, est-ce que ces progrès dans la traduction pourront aider à ce qu'on garde des traces de ces langues menacées une fois qu'elles auront disparu?
Alors, de manière générale, tous les progrès qu'on fait en traitement automatique des langues, on essaye de voir aussi quel impact il pourrait avoir pour outiller la linguistique, et la linguistique moderne se nourrit aussi de corpus. Et dans le laboratoire que je dirige, on a des projets de recherche qui visent à détourner un peu les outils de traduction automatique pour améliorer ou faciliter la documentation de langues, et surtout de langues qui sont en train de disparaître, de langues qu'on appelle peu dotées, pour lesquelles finalement peu d'efforts de collection de corpus a été fait. Et notre ambition, c'est d'accélérer la collecte de ces corpus, parce que pour beaucoup de langues, en fait, on court un peu contre le temps, hein, les derniers locuteurs sont en train de disparaître, et si on n'enregistre pas ces locuteurs, et si on documente pas aussi en traduisant, alors là, il faut traduire par un humain, par un expert, les propos, les contes, les recettes, tout le savoir que ces locuteurs ont, eh bien, ce sera perdu pour toujours. Alors, notre ambition, c'est d'aller collecter les données, de les faire traduire par un humain, et ensuite de lancer des programmes automatiques qui vont permettre de détecter dans ces langues qu'on connaît assez mal des unités, des mots, peut-être de traduire automatiquement une partie des mots, détecter des fragments de la grammaire également, et de manière à accélérer le travail du linguiste. Hein, le linguiste va partir d'échantillons qui seront déjà pré-mâchés par la machine, de façon qu'il puisse aller plus vite dans son travail de documentation.
Eh bien, merci beaucoup pour tout ça, François-Yvon. Merci de nous avoir renseigné sur les progrès des machines à traduire et d'avoir été aujourd'hui l'invité de La Danse des mots, cette émission qui est proposée par RFI et par le réseau Canopé, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Hamar.